Xavier Demany nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour. Départ précipité et rêve brisé, bientôt une semaine après la prise de pouvoir des talibans. Les premiers témoignages des Afghans, des Afghanes évacués en France. L'une d'entre elles est au micro de France Inter, on va l'entendre dans un instant. Elle a fui pour sauver sa vie, dit-elle, arrivée à Paris avant-hier et recueillie chez des amis. L'Afghanistan où les talibans pourraient trahir leurs promesses, ils traquent, selon un rapport établi pour l'ONU, les anciens collaborateurs de la coalition et du gouvernement déchu. L'été et le bilan des noyades dramatiques ces dernières semaines en France, y compris dans le cadre de colonies de vacances, normalement très encadrées pour la baignade. Un adolescent de 15 ans s'est tué hier dans les Pyrénées. À la une aussi ce midi, du renfort indispensable pour les soignants submergés dans les Antilles sur le front du Covid. On en sait d'ailleurs plus sur ce qui peut causer des formes graves, des facteurs génétiques en jeu notamment. Des usines automobiles arrêtées en attente de composants électroniques fabriqués à l'étranger. Et puis le décès d'un auteur de BD populaire, prolifique, Raoul Covin, créateur des Tuniques Bleues et de Cédric. On lui rendra hommage. La météo, du soleil au sud et des éclaircies partout ailleurs cet après-midi.
France Inter.
Au moins 18 000 évacuations et sans doute encore beaucoup à venir. Les pays occidentaux rapatrient depuis une semaine leurs ressortissants évidemment, mais aussi des Afghanes et des Afghans, des femmes, des militants, en général menacés de fait après la prise de pouvoir des talibans. C'est le cas de Zainab, elle a 29 ans, elle est arrivée à Paris avant-hier, diplômée de l'université, divorcée, elle vivait seule à Kaboul. Elle devait, dit-elle, fuir à tout prix pour sauver sa vie. C'est ce qu'elle a raconté à Franck Madvon.
Il y a encore un mois, je n'aurais jamais pris la décision de quitter l'Afghanistan. J'avais des espoirs, des rêves. Je venais d'être diplômée de l'université, j'avais commencé à travailler, je voyais des progrès dans notre société. Mais soudain, en une semaine, tout s'est effondré et j'ai dû sauver ma vie. Donc avec l'aide de mes amis français, j'ai pu rejoindre l'ambassade de France dimanche soir. C'était une question de vie ou de mort, car à tout moment, les talibans pouvaient entrer chez moi. J'ai eu si peur ce jour-là. J'ai pleuré sans arrêt. Je n'osais même pas ouvrir la porte pour voir ce qui se passait dehors. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être en vie et en sécurité. Mais je suis profondément triste, dévastée, au sujet de mes amis restés sur place. Je ne sais pas ce qui va leur arriver.
Témoignage de Zainab recueilli chez des amis en banlieue parisienne. Elle répondait à Franck Madvon pour France Inter. Alors il y a ceux qui ont pu partir et il y a ceux qui restent. Sur place, les talibans vont-ils tenir leur promesse de clémence? C'est tout le contraire pour l'instant, visiblement. D'après un rapport d'experts norvégiens qui travaillent pour l'ONU, Valérie Krova, les islamistes traquent, selon ce rapport, les anciens employés du gouvernement afghan ou des forces alliées.
Il existe des listes prioritaires de personnes qui ont occupé des postes dans les unités militaires policières et les services de renseignement que les talibans souhaitent arrêter. Le rapport souligne que les fondamentalistes ont intensifié leur collecte d'informations et qu'ils ont même réalisé une cartographie précise des personnes ciblées avant même qu'ils ne reprennent la majorité des villes afghanes, dont la capitale Kaboul. Des témoignages de personnes encore sur place nous confirment que des talibans fouillent des maisons le soir et qu'ils menacent les membres des familles de tous ceux qu'ils recherchent et qui refusent de se rendre. Selon un autre Afghan, joint ce matin, trois hommes de son quartier, qui travaillaient pour le ministère de l'Intérieur de l'ancienne administration, ont été tués hier et leurs collègues ont disparu. Le rapport du Centre norvégien d'analyse globale affirme par ailleurs que les talibans seraient en contact avec des mosquées et des courtiers qui transfèrent de l'argent à l'étranger pour compiler davantage de noms sur des listes. Ils recruteraient également de nouveaux informateurs désireux de collaborer avec le nouveau régime.
La situation en Afghanistan, sans doute aussi au menu d'une rencontre Merkel-Poutine aujourd'hui à Moscou. Ultime visite en Russie pour la chancelière allemande avant son retrait du pouvoir. Le cas de l'opposant Alexei Navalny sera aussi évoqué, accueilli en Allemagne après son empoisonnement il y a un an et désormais emprisonné en Russie. 80 personnes tuées au Burkina Faso, dont une majorité de civils. Le bilan de l'attaque djihadiste survenue avant-hier dans la zone des trois frontières est revu à la hausse. Attaque qui visait un convoi militaire, il escortait justement des populations. C'est la troisième embuscade en moins de deux semaines et au bilan donc très lourd. Le deuil national a été décrété jusqu'à demain soir. France Inter à Ouagadougou, Fanny Noaro.
Nous en avons marre de pleurer, marre d'enterrer les gens. La réaction de ce Burkinabé illustre l'incompréhension, le découragement ressenti par la population près de 48 heures après l'attaque. Une attaque qui a visé un convoi de gendarmes et de VDP, les supplétifs de l'armée, auxquels s'étaient greffés des civils voulant profiter d'une sorte d'escorte. C'est souvent le cas dans ces zones difficiles. Être en nombre leur garantit souvent plus de sécurité. Et bien que ce convoi s'étalait sur plus de 500 mètres, cela n'a pas dissuadé les terroristes, estimés entre 200 et 300 selon une source sécuritaire. Lorsqu'ils ont ouvert le feu, dans la panique, les civils se sont mis à courir dans tous les sens, ce qui a compliqué la riposte des gendarmes. Les combats ont duré près de 3 heures. Selon un communiqué du gouvernement, 58 terroristes ont été abattus. Les victimes civiles, 65 officiellement, ont été inhumées hier. Quant aux obsèques des 15 gendarmes décédés, elles sont prévues demain. À Ouagadougou, Fanny Noireau, France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demagny.
France Inter, 13h06, c'est l'un des fléaux de l'été. Les noyades font de nombreuses victimes encore cette année. Et si le bilan du début de la saison était plutôt encourageant, on se baignait un peu moins avec le mauvais temps. Les chiffres sont dramatiques ces derniers jours. Une fillette de 11 ans emportée par les courants le week-end dernier en Charente-Maritime. Et hier, un adolescent de 15 ans au lac de Barbazan, c'est dans les Pyrénées, sud-ouest de Toulouse, dans un plan d'eau interdit à la baignade. Dans ces deux cas, il s'agissait de sorties dans le cadre de colonies de vacances, colonies où la baignade est d'ordinaire très encadrée, comme l'explique Louise Fénelon de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air.
Tout d'abord, les baignades peuvent se faire sur un lieu qui est surveillé. Ça peut être une piscine municipale, ça peut être une plage dans laquelle la municipalité, là encore, a mis en place une surveillance. On signale son groupe, on demande l'autorisation de se baigner, avec à chaque fois un animateur pour 5 dans l'eau pour les plus petits, un animateur pour 8 dans l'eau pour les plus grands. Ensuite, il y a un deuxième lieu où peuvent se dérouler ces séances de baignade. Ce sont dans des lieux qui ne sont pas forcément surveillés par d'autres personnes que par les encadrants de la colo. Pour parler plus concrètement, sur des centres de vacances, nous avons nos propres piscines. Nous mettons en place, nous recrutons un surveillant de baignade qui a une qualification particulière. Et donc là encore, des conditions très strictes avec toujours un animateur pour 5 dans l'eau et des zones matérialisées. Ça peut être aussi sur, un plan d'eau. Et cette zone aura été reconnue à la fois sur la partie profondeur, la partie courant pour garantir ces baignades en toute sécurité.
L'Union nationale des associations de tourisme et de plein air interrogée par Delphine Evenou. L'incendie dans le Var est fixé et ne progresse plus d'après le préfet. Situation stabilisée mais pas encore maîtrisée, dit-il, avec des conditions météo qui vont se dégrader et le risque de nouveaux départs de feu éventuels. Plus de 7000 hectares partis en fumée au total, 2 morts, 26 blessés. Sans doute à cause d'un mégot mal éteint jeté autour d'une aire d'autoroute qui traverse le massif des Maures. C'est la piste des gendarmes du Var qui ont lancé un appel à témoins. Du renfort pour les Antilles. 300 soignants, infirmiers, médecins, professionnels de santé s'envolent cet après-midi direction la Martinique et la Guadeloupe. Une aide précieuse pour les hôpitaux d'outre-mer qui ne désemplissent pas, saturés par les cas de coronavirus. Une aide indispensable même, comme le souligne le professeur François Roch, président de la commission médicale d'établissement du CHU de Martinique.
Comme vous le savez, on est dans une situation qui est une situation de catastrophe sanitaire dans laquelle les moyens locaux, humains et matériels sont dépassés. Et le fait d'avoir un afflux de soignants répété depuis quelques semaines nous a permis de tenir avec des unités de soins médicaux, de réanimation, qu'on ouvre toujours en plus grand nombre pour pouvoir faire face.
Combien de patients Covid vous avez dans votre CHU à l'heure où l'on se parle ?
400. Il augmente de manière très graduelle. À chaque fois qu'on peut ouvrir une unité, il augmente tellement le besoin est important.
Quel est le profil de ces patients ?
Ce sont des patients jeunes, plus jeunes que lors des crises antérieures. Tous les âges sont également touchés, des enfants, des femmes enceintes. L'ensemble de la population est affectée.
Les hôpitaux surchargés en Martinique et le professeur François Roch du CHU de Martinique, interrogé par Céline Asselot. Actuellement, plus de 2000 patients sont hospitalisés en soins critiques. La majorité pour ce qui est de la métropole en Ile-de-France, en PACA et en Occitanie. Peut-être un jour, y aura-t-il un traitement anti-Covid préventif. Le laboratoire AstraZeneca, dont le vaccin boudé par les Français est de moins en moins administré, annonce des résultats encourageants. Il s'agit s'agit d'un traitement d'anticorps à prendre avant d'être en contact avec le virus et qui permettrait donc de limiter l'apparition des symptômes. Les formes graves du Covid, souvent favorisées par les comorbidités, on en a beaucoup parlé, obésité, diabète ou problèmes cardiaques notamment. Autre facteur, on sait désormais aussi qu'un quart des formes sévères sont dues à une anomalie génétique ou du système immunitaire. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
C'est ce que confirment deux études publiées dans la revue Science.
Oui, c'est la suite de précédents travaux publiés il y a un an par l'équipe internationale dirigée par le laboratoire français de génétique humaine des maladies infectieuses, Imagine. Il montrait qu'une partie des formes graves de la Covid-19 était liée à une mauvaise réponse des interférons de type 1. Alors les interférons, c'est la première ligne de défense lors d'une infection, une molécule produite dès qu'une cellule est infectée et qui va prévenir les autres. À l'époque, l'étude prouvait que 3 à 4% des cas sévères étaient liés à un défaut génétique, mais aussi que 10% avaient pour origine une anomalie du système immunitaire. Les patients fabriquaient alors des auto-anticorps qui empêchent les interférons de fonctionner. Grâce à de nouveaux tests plus sensibles, les résultats publiés hier montrent que cette anomalie serait présente de façon plus importante, 20% des formes graves, et surtout, ils l'ont cherché cette anomalie dans la population générale avec une cohorte de plus de 30 000 personnes. Le professeur Laurent Abel est le co-directeur du laboratoire Imagine.
Ce qu'on a montré, c'est que la fréquence de ces auto-anticorps était de l'ordre de, on va dire, 0,3% de façon assez stable, disons, chez les gens de moins de 65 ans. Et par contre, ça augmente énormément à partir de cet âge-là pour atteindre à peu près 4% entre 70 et 80 ans. Et au-delà de 80 ans, on arrive à 6-7%. Ça explique sûrement une partie du fait que les gens âgés sont beaucoup plus vulnérables pour les formes sévères, puisqu'ils ont beaucoup plus d'auto-anticorps.
Et l'équipe du professeur Abel travaille maintenant sur le développement d'un test pour repérer ces auto-anticorps détectés chez des personnes récemment infectées. Cela permettrait d'administrer au plus vite des traitements plus adaptés comme des anticorps monoclonaux.
Hélène Chevalier, spécialiste santé ici à France Inter. Le colonel Éric Stégère, qui avait pris la tête de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie en juillet, demande à être relevé de ses fonctions. Reconnu coupable de violences conjugales, sa nomination avait choqué en Nouvelle-Calédonie et au-delà. Le ministre de l'Intérieur prend acte de cette décision. Il sera réaffecté en métropole à un poste sans contact avec du public. C'est le commandant en second qui assure l'intérim en attendant une nouvelle nomination. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire, la sixième d'affilée, la permanence du député marcheur Sacha Houlier, incendié à Poitiers la nuit dernière. Acte volontaire, assure l'élu.
Moi, j'ai fait l'objet d'une quarantaine de menaces de mort au cours de l'été, notamment à la suite d'un amendement que j'avais déposé sur la vaccination des mineurs. Je sais aussi que j'avais porté mon concours aux policiers pour le démantèlement de réseaux de trafic de stupéfiants dans le quartier populaire dans lequel j'ai établi ma permanence. La semaine dernière, le tabac presse qui se trouve juste à côté de la permanence a été l'objet d'un braquage à main armée. Ça n'était jamais arrivé dans ce quartier populaire. Donc je peux pas dire que si c'est de la violence antiparlementaire ou si c'est de la violence pure. Moi, c'est donc la neuvième dégradation de ma permanence. Mon domicile a été dégradé plusieurs fois également à Poitiers. C'est la première fois que c'est aussi grave. C'est toujours aussi pénible, mais ça n'a aucune incidence sur ce que moi je pense et sur l'engagement qu'est le mien.
Le député de la Vienne, Sacha Houlier, interrogé par Simon Le Baron, mettre le feu à une permanence parlementaire est un double crime d'incendiaire et d'anti-parlementariste, réagit son adversaire à l'Assemblée, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui exprime sa solidarité comme de nombreux autres parlementaires de tous bords, ainsi que les membres du gouvernement. Après l'usine PSA Stellantis en Bretagne, c'est désormais celle de Toyota près de Valenciennes qui est touchée. Le redémarrage de la production est reporté de 2 semaines dans l'usine du Nord. Conséquence du chômage partiel pour ces salariés de l'automobile. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
En cause, cette pénurie de semi-conducteurs, ces pièces électroniques désormais indispensables dans les voitures mais produites à l'étranger et qui se font attendre.
Ouais, et comme pour PSA à Rennes, c'est un rebond de l'épidémie en Malaisie où sont fabriqués des systèmes de freins pour la Yaris qui poussent la direction à mettre 3000 salariés au chômage partiel, au grand dam de ces derniers et des syndicats. Thomas Mercier à la CFDT.
Ça a été un gros coup de massue quand même quand on a eu l'information, parce qu'arrêter la production de 2 semaines veut dire également perte de salaire.
Et d'évoquer les collègues qui reviennent de vacances, qui ont dépensé en famille durant l'été, qui seront payés pendant ces 2 semaines 84% du salaire, pas de prime annexe, et l'impression d'un jour sans fin alors que les salariés de l'automobile espéraient une rentrée plus sereine. L'horizon semble à nouveau bouché.
Ça va s'arrêter quand ? On va reprendre la production quand normalement ? Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui attendent les voitures. Donc forcément, il faut les produire. La Yaris et la Yaris Cross, c'est un gros succès. Mais la demande, il faut l'honorer. Et aujourd'hui, avec tous ces impacts, ça fait peur. parce que demain, il va falloir faire forcément des rattrapages de production une fois que les semi-conducteurs seront présents. Donc travailler des samedis, des dimanches pour l'équipe de nuit. Et donc ça pareil, il faudra rattraper la production, donc travailler 6 jours sur 7.
Bien que Toyota fait figure de bon élève avec 60% des fournisseurs à proximité de Valenciennes, la situation doit questionner la direction pour les syndicats. Un comité social d'entreprise est prévu lundi qui permettra d'aborder le sujet.
Maxime Deps, merci. L'eau n'est toujours pas bonne à boire dans une vingtaine de communes de l'Est, en Meurthe et Moselle et dans la Meuse. Rupture de canalisation réparée, mais il faut encore attendre des résultats d'analyse. 13h15, les écologistes sont lancés objectif 2022 et la prochaine présidentielle. Avant cela, il y a une primaire qui doit trancher et permettre de choisir le candidat écolo ou la candidate. Hier, aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, c'était carte blanche pour Yannick Jadot et Éric Piolle, les deux favoris, Laurence Perron.
Pour Éric Piolle, il s'agissait de faire tomber le costume.
Je vais vous parler, d'abord j'ai enlevé ma veste parce qu'il fait chaud.
Celui, réducteur selon lui, du maire de Grenoble, celui du novice en politique, de l'ancien ingénieur, trop polissé pour en découdre avec les grands. Preuve qu'il a l'estomac, il revendique même les gilets jaunes.
Cette France, Emmanuel Macron s'obstine à ne pas la voir. Par ignorance, par incompétence, par enfermement dans des modèles anciens, par cynisme total également.
Il se veut tout à la fois radical et pragmatique pour une écologie concrète mais non punitive. Il s'enflamme, le changement, c'est lui, on l'interrompt.
J'aimerais avoir ta réaction à la une du Canard enchaîné de la semaine dernière qui t'a décerné le melon d'or et voilà, savoir s'il fallait avoir le melon pour être président de la République.
Comme on nous traite souvent de pastèque, ben ça fait déjà 3, vous me trouvez encore 2 légumes et ça fera vos 5 fruits et légumes par jour.
Place à Yannick Jadot, lui joue l'expérience, son passé d'activiste de Greenpeace, ses combats de député européen.
Nous devons extirper les lobbies.
C'est possible aux erreurs tactiques aussi.
Je suis allé à la manif des policiers. Ah, cette manif, elle n'était pas confortable, je peux vous le dire. Et je comprends que ça en ait perturbé beaucoup. Elle n'était pas confortable, mais je regrette pas ma décision.
Difficile à l'applaudimètre de dire qui a remporté le match. Verdict le 28 septembre dans les urnes virtuelles de la primaire écolo.
Et ce soir, place aux 3 autres candidats, Sandrine Rousseau, Delphine Bateau et Jean-Marc Governatori aux universités d'été des Verts à Poitiers. La primaire écologiste donc ouverte à toutes et tous les plus de 16 ans encartés ou non, qui se tiendra à partir de la mi-septembre. Pas encore de terrain ce soir pour Messi, l'attaquant argentin, fraîche recrue et toujours en préparation, ne fait même pas le déplacement à Brest, où joue ce soir le Paris Saint-Germain en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 de foot, tout comme le Brésilien Neymar qui reste lui aussi à Paris. Vos enfants, vos petits-enfants, enfin, ont sans doute eu l'un de ses albums entre les mains un jour. Le Belge Raoul Covin, l'un des auteurs les plus prolifiques de la bande dessinée, est mort. Il avait 82 ans, prix du meilleur scénariste en 76 à Angoulême, mais rarement récompensé depuis. Créateur des Tuniques Bleues, mais aussi de la série Cédric, 50 millions d'albums vendus. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Raoul Covin, un homme de l'ombre, mais derrière de très nombreux succès de la BD populaire.
On ne pouvait pas manquer ces BD quand on était enfant et que l'on fouillait dans les bacs d'une bibliothèque. Raoul Covin a inventé des aventures pour Spirou et Fantasio, Boule et Bill, l'agent 212, les psys. Ses ouvrages sont devenus des classiques. Sa meilleure arme, le gag. L'homme était jovial, drôle, avec sa plume, il incarnait la bande dessinée populaire. Ce marathonien du scénario, auteur compulsif, pouvait publier jusqu'à 15 albums par an. Raoul Covin assumait une chose, la bande dessinée, c'est de la littérature. Il était interrogé en 2011 dans la librairie francophone.
Je suis toujours content quand j'entends des parents qui me disent, grâce à vous, mes enfants se sont mis à lire à ce moment-là des romans, à lire des bouquins, etc. Disons que c'est une approche de l'enfant pour justement la littérature. Pour moi, c'est important.
Raoul Covin était entré au début des années 60 aux éditions Dupuis. Il y restera toute sa vie. La série Les Tuniques Bleues sera son plus grand succès. L'histoire de deux soldats américains comme des Laurel et Hardy lors de la guerre de sécession. 15 millions d'exemplaires vendus, traduits en plusieurs langues. Le prochain ouvrage sortira cet automne en librairie.
Raoul Covin, dont on peut en savoir plus grâce à vous, Victor, sur sa carrière, donc sur franceinter.fr.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Pierre Hameau, vous avez du soleil à offrir, mais pas pour tout le monde, malheureusement.
Effectivement, Xavier, les nuages resteront d'actualité encore, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, en passant par la Normandie. Allez, prévoyez tout de même quelques éclaircies le long des côtes d'Albâtre et d'Opale. Mais du coup, en l'absence de soleil, les températures resteront timides pour la saison en bordure de Manche. N'attendez pas plus de 20 degrés à Brest et Boulogne-sur-Mer, 21 sur les plages de Dinard et de Saint-Malo. Dans les autres régions, les conditions seront plus estivales grâce à un très bon ensoleillement et des températures plus conformes aux moyennes de saison. Les maximales évolueront entre 26 et 33 degrés. Dans le détail, prévoyez 25 degrés à Lille et Nancy, 26 à Paris, 27 à Mâcon, comptez 28 à Bordeaux et Lyon, 31 à Figari, 32 à Marseille, puis on attend 33 degrés en Avignon.
Merci Jean-Pierre Rameau, Météo France.